Chapitre 17. La déroute de la veine. Ma première idée fut de fuir. J'avais horriblement honte, et Dieu sait pourquoi. En ce moment, je subissais plus cruellement le prétendu outrage qui m'était imposé que mon malheur même. J'étais une gloire déchue. Je n'osais plus affronter les regards qui m'entouraient. « Il faut jouer !» me dit Catiche, qui restait à mon côté, fidèle comme une épée. « Je n'ai plus rien !» répondis-je. « J'ai tout donné pour la collation. » Elle me glissa sa bourse. Je pontais d'un coup les 30 ou 40 louis que la bourse contenait. Mais j'étais tombé au rang des joueurs vulgaires. L'or se mit à rouler de tous côtés sur le tapis. Dès le début de cette nouvelle partie, on affecta de choisir la chance qui m'était contraire. Et l'on fit bien. Je perdis. Je jouais mes bagues, puis mes deux montres avec leurs chaînes. Je perdis. Je perdis également les bagues de Catiche, son collier, et jusqu'au bracelet de 1000 pistoles que je lui avais donné. La foule s'était écoulée peu à peu. Les nobles curieux qui étaient venus pour voir les miracles de mon médaillon s'en allaient un à un. Ceux qui restaient n'avaient pas assez de gorge chaude pour les déconvenus de la bague de chanvre. Le moment arriva, et bien vite, où Catiche, complètement dépouillée de ses bijoux, n'eut plus rien à me donner. J'avais encore, moi, mon médaillon et le cœur d'or enrichi de perles que Mademoiselle de Bois-le-Roi m'avait laissé dans sa lettre à Laval. Je mis ce dernier sur le tapis avec un grand serrement de cœur. Je jouais malgré moi désormais. J'aurais joué mon sang et mon âme. Le cœur d'or fut tenu pour 60 louis et perdu. Je me levai tout chancelant, je brûlai la fièvre et je me figurai que ma tête se perdait tout à fait, car au moment où j'allais quitter la table, entouré désormais par l'indifférence générale, je vis la fenêtre de la tribune s'entr'ouvrir et le cher visage de Vivette m'apparut. Ce ne fut qu'un instant, mais comme je la reconnus bien, elle avait des larmes qui mouillaient son sourire. Je vis une grosse main ridée peser brutalement sur son épaule. Et le grillage se referma. Mais une bourse passa entre les deux battants et vint tomber sur le tapis devant moi. « Pour toi, Gaston !» C'était bien elle. Oh, cet argent-là devait porter bonheur. « Vivette, ma chère Vivette !»«
C'est vrai qu'elle me ressemble un peu, » dit Catiche auprès de moi. « Jouez moitié, mais elle est bien plus jolie. »
Je jouais tout et je perdis. Alors je déchirai d'un geste furieux mon froc, ma veste et ma chemise brodée, criant comme un insensé. « Eh bien, je le risquerai. Je joue la bague de chanvre contre les 100 000 écus qu'il me faut. » Pour le coup, la curiosité fut réveillée violemment. 30 cheveux n'était pas un homme gai, et pourtant il eut un éclat de rire. Il ouvrit la bouche pour repousser bien loin mon offre, lorsque la voix cassée du vieux maréchal passa encore une fois à travers les barreaux de la tribune. « Chevalier, disait-elle, je me mets au lieu et place de la banque pour tenir 300 000 livres contre votre médaillon. » Mais il y eut ici un bien autre coup de théâtre. Mes deux mains s'étaient plongées à la fois dans mon sein pour y saisir le talisman. Elles ne rencontrèrent rien. Un cri sauvage s'étrangla dans ma poitrine. « On m'a volé !» balbutiai-je, écrasé par la certitude soudaine de mon malheur. « Je n'ai plus ma bague. On m'a volé ! On m'a volé !» C'était un tour de la comtesse de Vaudreuil. On travaillait ainsi dans la camarilla de monsieur le duc de Chartres. Je dois le dire, la salle entière fut soulevée, et mon talisman regagna d'un seul coup tout le religieux respect qu'il avait perdu, même un peu plus. Ce n'était pas la faute de la bague de chanvre. La tribune s'ouvrit toute grande. Elle ne contenait plus que le vieux duc de Richelieu, qui ricanait méchamment et disait en secouant le tabac d'Espagne de son jabot. « Ah, pauvre chevalier, que je vous plains! Qui donc a pu vous jouer ce vilain tour ?» Je pris un élan de bête fauve. Il est certain que j'étais fou. Ma volonté était d'escalader la loge et de broyer sous mon talon la tête de ce vieil homme. Mais je tombai en chemin, suffoqué par la rage. « Faites votre jeu, messieurs !» Ce fut le dernier mot que j'entendis.
La voix de 30 cheveux avait recouvré toute sa belle tranquillité. Un quart d'heure après, je redescendais le perron de l'hôtel du chevalier Zeno, soutenu par Catiche, qui ne m'avait pas abandonné. « Attendez-moi un instant, » me dit-elle. « Je vais voir si mon berlingot est là. »«
Je suis tout à fait remis, » répondis-je. « Je puis vous suivre. »
La cour était pleine de laquais, qui savaient déjà mon aventure et m'examinaient curieusement. Catiche me dit tout bas. « Il faut rester. Tant que vous êtes chez son Excellence, vous avez la protection de Venise. Une fois dehors, » elle n'acheva pas et sortit en courant. Je ne devais pas tarder à comprendre les motifs qu'elle avait pour reconnaître les environs avant de quitter ce lieu d'asile. Catiche revint pourtant toute joyeuse. « Nous avons le temps de sauter en voiture, » me dit-elle. « Je n'ai pas vu de mine suspecte dans la rue. »«
Mais pourquoi m'arrêterait-on » m'écriai-je.
« Chut ! Monsieur de Richelieu veut être heureux au jeu comme en amour. Il baisse des deux côtés et cela lui aigrit le caractère. » Nous gagnâmes sans encombre le berlingot de Catiche. Elle y monta la première et poussa un cri de terreur. En même temps, un fort coup de sifflet partit de l'intérieur de la voiture qui fut entourée d'oiseaux de police en un clin d'œil. On me fit monter à mon tour. Je ne songeais même pas à faire résistance. L'homme de l'intérieur, celui qui avait lancé le coup de sifflet, attendait là depuis 2 heures à l'insu des gens de Catiche, à moins qu'on ne les eût payés. En parlant